C'est qui l'invité dans la chemise d'arrivure?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe! C'est qui l'invité dans la chemise d'arrivure?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus.
Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
C'est allez, bon. Dernière fois. Zou.
Allez les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous. On y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Vivement ce soir qu'on se couche. On est le mercredi 18 janvier et il y en a un qui a intérêt à nous payer un coup à boire ce soir. J'ai nommé Samoussa. Joyeux anniversaire, Sam. Bonjour Elsa, bonjour Elsa.
Bonjour Audrey.
Alors on est content pour une fois, on est vraiment content parce que la LPO fête ses 100 ans cette année et il y a quelqu'un de la LPO qui est passé ce matin pendant qu'on préparait l'émission et qui nous a proposé de les fêter avec eux. Alors on va avoir une petite émission avec des pioupiou, des oiseaux. J'avoue que ça me réjouit, moi, ce genre de sujet un peu joyeux, un peu festif, loin des relents nauséabonds de l'actu et de la politique. Politicienne. Au sommaire de notre émission est Elle, la chronique du mercredi signée Florian Boulet de la Maison de la Mémoire. Elle porte toujours le nom énigmatique de 3A246. Je ne sais pas si on vous a déjà expliqué pourquoi, mais Elsa?
Non, je crois qu'on n'a pas expliqué.
Tu veux, Elsa, c'est toi la pro?
Oh, bon, des archives. On s'est inspiré de la cotation, d'une cotation qu'on peut trouver dans les archives où souvent tu as un premier numéro, une lettre et un deuxième numéro. Voilà.
Voilà, vous saurez.
Je
ne
vais peut-être pas rentrer dans le détail des cotations dans les archives.
Ce n'est pas si énigmatique que ça, c'est cohérent quand même.
En réalité, il y a une cohérence, oui. Il y a une signification
derrière
tout ça.
Donc 3246, aujourd'hui, on plongera dans le monde ouvrier saint-africain au 19e siècle. Dans la chemise à rayures, il sera question d'OGM, de droit et de liberté dans la rue et de suppression de postes dans l'éducation nationale. Il y aura un peu de chou, beaucoup de fadaise, donc avec Elsa Gourmand, et un peu de musique et beaucoup de plaisir avec nos CD de la semaine, le premier du jour, Peau Rouge de Erwan, qui visiblement a les idées aussi sombres que nous. Mélodie en sous-sol, c'est le titre. Hein.
Dehors, je suis dedans, c'est le chaos. Je marine dans le bassin, purin, grossesse intramuraux. La baffie des cadeaux plante son drapeau dans des cervelles d'enfants, aucun signe de là-haut. La plume glace, marronnasse, mutante, fan race. Les bons sentiments dégoulinent sur ma face. Crâne bagué, cerveau bugué. Au fond de l'espace, y'a des gains. Au fond de l'espèce, y'a des goûts. Visage sombre, fin du monde, victoire totale. Du confort létal, des papas gâteaux. Des préceptes gâteux, de l'Occident gâté. J'ai les vertèbres qui grincent, j'ai la nausée. Ma trachée s'infecte, s'humecte. Les images violentes se bousculent dans ma tête. Je rêve de guerre, de meurtre, fille du cortex. Je paye en ligne de mire dans mon codex. Je passe l'inspi dans les recoins, et comme elle n'aspire plus à rien, je vais vider mon sac ailleurs, dans le sombre profondeur. Je repasse l'inspi dans les recoins, et comme elle n'aspire plus à rien, je tape sur toutes mes casseroles, écoute la mélodie en sous-sol. La vie crue cruelle a mis son écrou cruel. J'ai beau gratter, je bois du blanc dans un tunnel. Du néant sur page noire, sué sur carreau. L'inspi a jeté l'encre sur mon bureau et s'éclate sous des cieux cléments. Avec des loups qui la font jouir sans lui faire de l'ombre. Des novices du clinquant, des puceaux de la plume qui mettent en une leur moindre battement. Et je regarde passer le temps, voyant le gouffre qui m'attend. J'entends les slogans, il va retraite à 36 ans. Faux, mes mots fracassent les portes. Même si j'ai SOS dans une langue morte. L'Occident dans cette morne France, les bouteilles à la mer sont pleines d'essence. Je passe l'inspi dans les recoins, et comme elle n'aspire plus à rien, je vais vider mon sac ailleurs, dans le sombre profondeur. Je repasse l'inspi dans les recoins, et comme elle n'aspire plus à rien, je tape sur toutes mes casseroles,
j'écoute la mélodie en sous-sol.
J'ai le rack en vrac qui traque l'œil de Saturne. Des pensées de macaque dans un jus de star taciturne. Front de pile en suqué au fond du bol. Rappelé paluche des quiboles. Le pif en chou-fleur. Et si mes poings sont liés, mon verbe rouillé. Allez gros mignon, béton viagé. Je crache en laisse, prends acte. Trace de chair en lambeaux qui traîne sur la voie lactée. Dans l'acre fumé, je parachute des phrases. Accro fumée du son strident en face. Je branche l'inspi dans des amplis saturés. Voyage en bas fond, la cervelle raturée. Avale la poussière le long des tranches oubliées. Rentrage m'arrache sur des cocottes dépliées. J'aurais aimé jouir à jamais mes chiens dans le bouge.
Avec moi t'es dans le jaune et dans le rouge. Je passe l'inspi dans les recoins. Et comme elle n'aspire plus à rien, je vais vider mon sac ailleurs. Dans le sombre profondeur. Je repasse l'inspi dans les recoins. Et comme elle n'aspire plus à rien, je tape sur toutes mes casseroles. J'écoute la mélodie en sous-sol. Je passe l'inspi dans les recoins. Et comme elle n'aspire plus à rien, je vais vider mon sac ailleurs. Dans le sombre profondeur. Je repasse l'inspi dans les recoins. Et comme elle n'aspire plus à rien, je tape sur toutes mes casseroles. J'écoute la mélodie en sous-sol.
Merci à Erwan et sa mélodie en sous-sol. Erwan, effectivement, le chanteur de Java. On reconnaît les sonorités dans cette chanson-là, contrairement à la chanson de lundi, Papier d'Arménie, qui était dans un style tout à fait différent. Mais je m'égare. Chou et Fadaise, c'est maintenant.
Chou.
Fadaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Ben parce que feuille. Bonjour Elsa.
Bonjour Audrey. Et on commence avec notre petit tour au quotidien des journaux. Libé, Luma, La Croix, titre sur le sommet social qui a lieu aujourd'hui. Nicolas Sarkozy reçoit les syndicats à l'Élysée. Un constat et cette question pour Libé. 1000 chômeurs de plus par jour, quelle solution? Je ne sais pas où ils ont été trouver les 1000 chômeurs de plus par jour, mais bon bref. Et de passer en revue les idées des principaux candidats en faveur de l'emploi. Contrat de génération pour François Hollande, production Made in France pour Bayrou, développement des emplois verts pour Eva Joly, priorité au salaire pour Mélenchon et protectionnisme pour Le Pen. Une bombe posée sur un dossier rouge, c'est l'image qu'a choisi Luma pour illustrer son propos. Un sommet pour dynamiter le social, la TVA dite sociale, déréglementation du temps de travail, extension du chômage partiel, prime au chantage patronal. En fin de mandat, le gouvernement précipite la mise en œuvre des mesures que réclame le MEDEF. La Croix, un sommet de crise au chevet de l'emploi, la formation des chômeurs et la facilitation du chômage partiel seront deux sujets du sommet. Le Monde, lui, titre sur le maigre bilan en matière de sécurité des années Sarkozy avec une hausse substantielle des cambriolages. Ça arrange pas les affaires de Guéant. Le sommet social, lui, ne semble pas retenir l'attention du Figaro qui vous propose un entretien avec Alain Wauquiez. Le PS prépare un coup d'assommoir fiscal qui touchera les classes moyennes, prévient le ministre de la Recherche. Et comme décidément le sommet social n'intéresse pas le Figaro, une photo d'un bateau de sauvetage partage la une avec le ministre. Concordia, le bilan s'alourdit. Et c'est aussi une photo du bateau penché sur les eaux qu'a choisi le Midi Libre. Impressionnante hein, ouais. La photo. Concordia, un capitaine à la dérive. Mais si vous n'avez pas le pied marin, vous trouverez dans le cahier 2 du Midi Libre une étude démographique concernant la région Languedoc-Roussillon, qui est l'endroit de France qui compte le moins de natifs du cru sur son territoire. Coup d'œil à l'étranger, la Tunisie. La Tunisie un an après, c'est le titre du reportage que Marine Gozlan propose dans Marianne. Il y a un an, Ben Ali était chassé de Tunisie, le début du printemps arabe. Aujourd'hui, l'opposition entre laïcs et islamistes qui ont gagné les élections risque de tourner à l'affrontement. La désespérance est toujours aussi grande et les suicides continuent. Les chômeurs sont toujours aussi nombreux et les diplômés chômeurs sont les mêmes que sous Ben Ali. Le président de la République, Moncef Marzouki, se fait huer lors de ses déplacements et même les policiers manifestent contre le pouvoir. Problème, il n'y a pas d'unité dans la protestation qui s'exprime à l'heure actuelle. Les contestataires peuvent même se détester. D'un côté, une manifestation de laïcs qui dénonce les pratiques benalistes du pouvoir islamiste qui veut imposer ses nouveaux directeurs aux médias. comme sous la dictature de Ben Ali, mais pas seulement. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et de l'autre, une manifestation de salafistes qui exige que les étudiantes en voile intégrale soient admises dans les cours. Les frérots, comme on appelle les islamistes, sont de retour avec des méthodes d'intimidation et de coercition. Et le pouvoir les laisse plus ou moins faire, car ils constituent sa base. On estime les salafistes tunisiens à 10 000, résume le directeur de la rédaction du journal Maghreb. Et il y avait 1 200 djihadistes emprisonnés pour faits de terrorisme. Ils ont tous été amnistiés après la révolution et ils contrôlent désormais une mosquée sur 5. L'opinion est sous le choc et le nouveau pouvoir issu de la révolution retrouve les réflexes de la dictature. L'Afrique du Sud. Le Congrès national sud-africain, le parti de Nelson Mandela en Afrique du Sud, célèbre ses 100 ans, 20 ans après la fin de l'apartheid. Mais la corruption des élites politiques noires et la persistance d'une grande pauvreté pour une partie importante de la population témoignent d'un bilan décevant. Politis nous retrace donc l'histoire de l'ANC, créée le 8 janvier 1912 à Mangong. Les fondateurs de l'ANC étaient unis par leur opposition au South Africa Act. C'est bien dit, Audrey, bravo. Merci. De 1910, qui posait les bases de la reconstruction de l'Afrique du Sud après la guerre anglo-bour, je crois qu'on dit bour, qui a duré de 1899 à 1901. Par cette loi, le Parlement britannique accordait une large autonomie au gouvernement sud-africain et entérinait déjà la marginalisation politique des Noirs. Au début des années 40, un groupe de jeunes militants, dont Nelson Mandela, propose de durcir l'action pour lutter contre les mesures ségrégationnistes et ils ont recours aux grèves et à la désobéissance civile. En 48, avec la victoire du Parti national, la politique d'apartheid est mise en œuvre. La répression contre l'opposition est brutale et sanguinaire. Aussi, en 61, le passage à la lutte armée est décidé au sein de l'ANC. Et puis dans les années 80, le gouvernement se voit contraint face à l'intensification des mouvements populaires de négocier avec l'ANC. Et en 94, les premières élections au suffrage universel portent Nelson Mandela à la présidence de la République.
Auparavant, je vous propose de développer les autres grands titres de l'actualité de ce mardi avec tout d'abord, bien sûr, l'éclipse totale de l'apartheid en Afrique du Sud après 3 siècles et demi de domination blanche sans partage. Avec la prestation de serment ce matin de Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Parmi les 5000 invités de cette fête, l'ancien geôlier de Mandela. Petite particularité historique, le futur gouvernement sud-africain va compter pas moins de 7 anciens tôlards, emprisonnés pour leurs idées politiques, bien sûr. Philippe Rochaud.
Le nouveau drapeau de la nouvelle Afrique du Sud flotte depuis ce matin sur Pretoria. L'hymne national réunit pour la première fois Nelson Mandela, sa fille à ses côtés, et Frédéric de Klerk, le pouvoir noir et le pouvoir blanc qui vont désormais diriger le pays. 42 chefs d'État et 5000 personnalités du monde entier, dont Fidel Castro ou Benazir Bhutto, étaient venus assister à la prestation de serment de Nelson Mandela et à la cérémonie d'investiture. Frédéric de Klerk, l'ancien chef d'État sud-africain qui devient vice-président, prête serment le premier devant la Cour suprême. Que Dieu m'aide dans ma tâche. Mandela, détenu pendant 27 ans dans les prisons de l'apartheid, a juré de servir cette Afrique du Sud aujourd'hui réhabilitée aux yeux du monde grâce aux élections qui le portent au pouvoir. Mais quand Mandela apparaît devant une foule de 50 000 personnes qui l'attend dehors, c'est derrière une vitre à l'épreuve des balles qu'il demande à tous de l'aider dans sa tâche. Le président Mandela s'est promis de libérer son pays de la pauvreté et des discriminations, mais les fastes de la cérémonie d'investiture ne sauraient éliminer la violence politique qui ne va pas cesser avec la mise en place de ce nouveau pouvoir.
C'était donc un reportage de France 2 en mai 1994. Donc il y avait quand même vraiment un espoir hein, après cette élection. Mais au fil des années, l'ANC est devenue un instrument politique d'accession au pouvoir économique contrôlé par une minorité. À partir de 1996, d'ailleurs, les mesures prises deviennent néolibérales. Et même s'il a été beaucoup fait en termes de logement, d'adduction d'eau, d'accès à l'électricité, de création de centres de santé, la majorité des Noirs continue de vivre dans une grande pauvreté. Seule une petite minorité a tiré son épingle du jeu. À cela s'ajoute une criminalité qui ne cesse de se développer. Face à cette situation, l'ANC se divise. Et même si certains au sein de ce mouvement historique tentent de faire prévaloir une politique axée sur l'amélioration des conditions de vie des pauvres et la création d'emplois, l'évolution des élites politiques actuelles est décevante. Mais 100 ans après la création de l'ANC, ce sont les Sud-Africains, nés après 1990, qui décideront. Plus de 40% de la population a moins de 20 ans et 3 millions d'électeurs voteront pour la première fois en 2014. Alors on me reproche d'annoncer, de dire toujours des choses sinistres, hein, Audrey. Donc voilà, j'avais décidé de vous, voilà, de vous donner quelques brèves sympathiques ou hein, un peu rigolotes. Je dis bien un peu. Hein. Et puis encore, c'est pas sûr, ça dépend pour qui. Pour l'exercice 2011, première brève, les sociétés du CAC 40 s'apprêteraient à verser 37,3 milliards d'euros à leurs actionnaires. Ceux-ci avaient déjà bénéficié du retour du rachat d'actions par les sociétés à hauteur de 5 milliards d'euros. Mais les mieux servis sont encore les patrons, 34% de hausse de rémunération. De quoi on se plaint, hein?
C'est drôle ça.
Bonne année.
T'en as d'autres comme ça?
Allez, une petite noix d'honneur dans le canard enchaîné, décerner la noix d'honneur à Christian Estrosi, député maire de Nice. Questionné sur la soirée fondatrice du quinquennat de Sarkozy le 6 mai 2007 au Phuket, le baron de la Riviera a rétorqué « C'est indigne de reprocher au président de la République d'être allé dans une brasserie populaire des Champs-Élysées ce soir-là ». Et comme dirait l'autre, si à 50 ans, t'as jamais mis les pieds dans une brasserie populaire avec ta Rolex de prolo, c'est que t'as pas voté Sarko.
Une petite brasserie populaire.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va rester un petit peu en politique.
Bah, c'est quand même drôle. C'est une source d'inspiration pour l'humour. Ouais. Number one.
Toujours dans le canard.
Elle a vraiment des journaux entre les mains, elle fait pas semblant. Hein.
Ah, je fais pas semblant. Mélenchon salué à l'Élysée. Je trouvais pas ça pas mal. Au cours du petit déjeuner, le 17 janvier, les dirigeants de l'UMP se sont réjouis du succès d'affluence qu'a connu Jean-Luc Mélenchon le samedi 14 janvier pour son premier meeting de l'année au Zénith de Nantes. Il y avait quand même 6000 personnes. Sarkozy a fait passer ce message aux troupes. Continuez de ne pas critiquer le candidat du Front de Gauche dans l'espoir qu'il plombe le score de Hollande au premier tour. Eh ouais, tout est bon dans le Mélenchon ? Demande le canard. Je sais pas si c'est très drôle tout ça. Enfin bref.
C'est pathétique. La politique.
Ouais. Une petite dernière, c'est un petit fait divers rigolo, ça c'est dans Marianne, hein, les risques du métier. À Trouville-sur-Mer, c'est dans le Calvados, des passants ont aperçu des malfaiteurs qui braquaient, armes au poing, une malheureuse victime. La police, alertée, a fait appel à 4 patrouilles pour coincer la voiture des malfrats. Plaqués au sol, menottés, ils ont été placés en garde à vue. C'est alors que l'on a découvert qu'il s'agissait de journalistes de France 2 tournant pour complément d'enquête la reconstitution d'un vol à main armée, bien réel, celui-là.
Allez !
On trouve plein de choses dans les journaux, hein. C'est chouette.
Je reste dans l'actualité, donc le 18 janvier, je vous l'ai dit. C'est un anniversaire, alors pour Samy Chlapiche, c'est juste pour toi. Pom 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 pom. Pom 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 pom.
Pom 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 pom. Pom 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 pom. Quand je les avais calés par an dîner dans un grand restaurant, je savais déjà par le menu quel serait mon menu. Au risque de faire des honneurs à mes augustes géniteurs, au risque qu'ils me déshéritent, je prenais des frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de descendre à Paris, aller voir là-bas si j'y suis. Pom, 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 pom. La première fois que j'ai pris conscience qu'il faut pas se fier aux apparences, c'est quand j'ai su que les frites en clair, ben, c'était de la pomme de terre. Depuis, quand je croise une grosse patate qui essaie de se prendre pour un Goliath, je me dis que sous ces airs de Brad Pitt se cache peut-être une frite. Aujourd'hui, on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de rejoindre le tout Paris, là où tout se sait, tout se dit. Oh mon chéri, vous ici. Si je ramène pas mon sac de riz, quand c'est le bordel en Somalie, c'est que les gamins de Mogadiscio rêvent aussi de frites maillot. Plus tard, je ferai le monde entier, tel le baron Parmentier, avec sur le dos une marmite et 33 kilos de frites. Aujourd'hui, on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord, au lieu de crever de faim à Paris, à force de bouffer les sushis. J'ai le droit à une friterie du stade Grimont-Préjoris, un soir qui faisait moins de 10, il se passait rien sur le terrain quand j'ai osé lui prendre la main en lui disant réchauffe-toi vite, tout contre ma, mes frites.
Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de descendre à Paris, là où les filles sont si jolies.
J'arriverai au purgatoire, du cholestérol plein le tiroir. Je demanderai au chef de cuisine ce qu'on mange à la cantine. S'il me répond
la pomme de terre,
oh ben j'irai tout droit en enfer. Au moins je serai sûr qu'elles seront bien cuites, qu'elles seront bien frites.
Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore
pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis.
Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore
pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis.
Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore
pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis.
Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore
pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis.
Les blaireaux pom-pom frites pour nous mettre en appétit avant la chemise à rayures.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
Dans la chemise à rayures aujourd'hui, nous parlerons de l'appel à la grève lancé par les enseignants suite aux suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine, grève qui aura lieu demain. Henri Cellier nous présentera la prochaine thématique de la permanence droit et liberté qui se déroule au lieu dit vendredi prochain. Et Elsa de Court, tu t'es penchée sur le débat qui continue à faire rage autour des OGM. Bonjour Elsa.
Bonjour Audrey, rebonjour. Et oui, les cultures d'OGM en plein champ sont interdites en France depuis 2008. Les seules cultures transgéniques restantes sont confinées dans des laboratoires, notamment pour la fabrication de médicaments. Cependant, à la fin de l'année dernière, l'interdiction de planter l'OGM de Monsanto, le Mont 810, on n'entend parler que de lui en ce moment, a été suspendue. Aujourd'hui, les faucheurs d'OGM et les apiculteurs craignent le pire, car si le gouvernement ne prend pas rapidement une décision, il y aura cette année des cultures de Monsanto partout en France. Explication avec Christine Thélène du mouvement des faucheurs volontaires d'OGM.
Donc en 2008, il y avait eu déjà jusqu'à 22 000 hectares de cultures OGM qui avaient été faites en France. Et on avait à cette époque-là démontré qu'il y avait des problèmes de pollinisation dus notamment au travail des abeilles. Parce que oui, les abeilles, elles volent, elles bougent, ce sont des insectes pollinisateurs. Donc elles s'intéressent aussi au pollen du maïs, bien sûr. Et elles le ramènent gentiment à leur ruche. Et donc, on a prouvé à l'époque, et depuis ça a été prouvé dans beaucoup d'autres pays, que des ruches sont contaminées par le maïs transgénique. Et donc, c'est bien le souci sur lequel on s'agite actuellement, parce que s'il n'y a pas rapidement une interdiction qui est de nouveau mise en place de cultiver ce maïs transgénique, on peut craindre pour l'avenir des apiculteurs français. Il faut donc savoir qu'actuellement, déjà, il y a des miels qui sont interdits de vente, notamment le miel roumain et le miel espagnol. Et donc, rapidement, nous, on demande qu'il y ait donc un moratoire qui soit de nouveau pris cette année. Et donc, on a fait une action la semaine dernière à Montbéki. Mais je crois que vous avez aussi Joël Blanc qui va intervenir là-dessus. Et nous, donc, le mouvement des faucheurs volontaires, on a soutenu cette action. Et on a signalé, et puis tous les autres mouvements aussi, que c'était une première action qu'on menait et que d'autres actions suivraient si rapidement on n'avait pas ce moratoire. Il reste à peu près, quoi, je dirais, 2-3 semaines, un petit mois, quoi, avant que cette autorisation ne soit effective, puisqu'il faut quand même savoir que les agriculteurs, quand ils vont planter le maïs, ils vont se procurer des semences maintenant, là, très rapidement. Le maïs se plante très tôt. Il se plante en mars, avril, et donc cette année, comme c'est une année particulièrement douce, on peut même craindre qu'il le plante avant. Donc on demande, il y a vraiment péril en la demeure.
Et puisqu'il y a péril en la demeure, il faut faire vite, très vite. Ce mois-ci, de fortes mobilisations ont déjà eu lieu entre apiculteurs et faucheurs d'OGM, militant ensemble pour les mêmes revendications.
Alors la première action qui a été mise en place, donc, c'est l'occupation d'un centre d'essai de Monsanto, puisque le Mont 810 est un brevet qui appartient à Monsanto. On a occupé le centre d'essai de Montbéki la semaine dernière. Suite à cette action, on a obtenu un rendez-vous au ministère, qui est donc très bientôt. Et on attend, après ce rendez-vous, on leur demande de maintenant prendre rapidement un moratoire, qu'ils arrêtent de nous balader de rendez-vous en rendez-vous. Et si jamais le moratoire n'arrive pas, on va mettre en place d'autres actions. Je ne peux bien sûr pas tout vous dévoiler à la radio. Les faucheurs, on est 6000 inscrits. Bien sûr, comme on fait des actions en semaine, enfin, tout le monde ne peut pas toujours se déplacer, mais on peut toujours compter sur 2, 3, 400 personnes qui peuvent se mobiliser suivant les endroits, quoi, hein. Donc le mouvement est très vivant et très vigilant, et je veux dire qu'on espère bien obtenir ce moratoire rapidement. Et, bon, nous, les faucheurs, c'est une chose, mais il faut quand même savoir que les dernières sondages le prouvent encore, c'est que plus de 80% des Français ne veulent pas d'OGM, quoi. Donc à mon avis, c'est surtout cette revendication-là qu'il faut entendre, parce que nous, on peut nous taxer d'écologistes, on peut dire un peu jusqu'au boutiste, mais je veux dire, les gens ne veulent pas dans leur ensemble, et les Français ne veulent pas des OGM, ni dans les champs, ni dans les assiettes. Donc je crois que c'est surtout là-dessus que le gouvernement doit s'appuyer pour prendre un nouvel arrêté anti-OGM. Ce sont des actions symboliques que l'on mène, et ce sont des actions de lanceurs d'alerte, quoi, hein. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut informer quand même en grande partie les citoyens sur ce qui se passe dans leur environnement, tout ce qui peut arriver aussi dans la nourriture par la suite, quoi, hein. Puisqu'évidemment, ces maïs sont destinés à l'alimentation animale ou à l'alimentation humaine. Donc évidemment, c'est pas du tout un progrès, quoi. Nous, on pousse quand même pour l'agriculture propre, l'agriculture biologique. Donc ça a été prouvé qu'on pouvait très bien nourrir la planète avec ce type d'agriculture. Bien sûr, ça rapporte moins à tous ces lobbies semenciers, mais bon, je veux dire, c'est pas là le problème. Aujourd'hui, il faut agir pour la préservation de l'environnement.
En attendant que le gouvernement se prononce, les faucheurs volontaires font une petite piqûre de rappel sur l'impact que ces plantes transgéniques ont sur l'environnement.
On attend très rapidement ce moratoire, parce qu'il faut quand même savoir que cet OGM est une plante à la fois pesticide et à la fois insecticide. Donc, parce qu'elle résiste au Roundup, et elle-même, elle développe un insecticide BT qui détruit quand même une grande partie des pollinisateurs. Donc ce sont des plantes qui ne sont absolument pas des progrès pour l'environnement. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Il y a un tas d'autres maïs qui peuvent être cultivés sans poser ces problèmes. On le voit, depuis que les OGM ont été interdits en France, il n'y a pas eu moins de cultures de maïs et il n'y a pas eu plus de problèmes. Donc c'est uniquement un lobby qui pousse ça pour vendre à la fois ses semences à un bon prix et à la fois les produits qui vont avec. Et je pense que la France n'a pas à répondre à un diktat pareil et doit avant tout protéger son environnement.
Christine Thélène, donc, du mouvement des faucheurs volontaires d'OGM, qui nous rappelait l'urgence de la situation et les risques sur l'environnement. Ce qui nous ramène tout droit à l'apiculture. Nous allons voir tout de suite que ce sont les apiculteurs les premiers concernés par l'impact des cultures transgéniques. Alors Joël Blanc et sa compagne Jo Blanchecotte sont apiculteurs sur le Causse Noir. Ils ont créé ensemble la miellerie des Grands Causses et produisent en bio depuis le début de leur installation, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans déjà. Joël Blanc est aussi à la Confédération Paysanne et milite contre les OGM. Petit tour d'horizon avec un apiculteur qui ne mâche pas ses mots.
En fait, en septembre 2011, coup de théâtre, la Cour de justice européenne a statué sur du miel allemand qui était contaminé par du pollen du Monsanto 810, donc du pollen de maïs Monsanto 810, et a déclaré que le pollen est un ingrédient du miel. Comme Monsanto n'a pas demandé d'agrément pour le pollen dans sa précédente demande d'agrément européenne, la Cour de justice européenne a demandé que le miel contaminé soit détruit. Voilà, ça maintenant c'est la loi. La situation est très très préoccupante en Espagne et en Roumanie. En Espagne, il y a 90 000 hectares de Monsanto 810. Et actuellement, le miel espagnol est complètement bloqué, il ne sort pas d'Espagne, parce qu'il y en a une partie qui est contaminée. Et je crois que le problème est le même pour les Roumains. Bon, pour nous en France, c'est pas le problème, enfin, il risque d'être important pour 2012. Comme vous savez, le Conseil d'État, suite à une décision de la Cour européenne de justice, toujours, a annulé le moratoire, la clause de sauvegarde. Notre très très cher président, a déclaré devant ses amis de l'Association Générale des Planteurs de Maïs, qui sont le fer de lance de la FNSEA et le fer de lance pro-OGM de la FNSEA, il leur a déclaré dans le Gers, il y a quelques jours, qu'il était hors de question d'avoir des maïs Monsanto 810 en 2012. On a perdu l'électoral. Mais méfiant et pas ballot, les apiculteurs, on voudrait pas se faire enfumer un comble pour les apiculteurs. On voudrait pas se faire enfumer et on se dit que si notre cher, très cher président prend sa clause de sauvegarde, disons mi-mars par exemple, eh bien, en fait, les semis seront faits, les semis de maïs seront faits. Et l'AGPM a déjà communiqué en disant que cette année, les semis de maïs seraient très, très, très précoces. Et oui, les semences rentrent d'Espagne. Voilà. Donc, évidemment, ils ont intérêt de pousser les feux, leurs feux, et Monsanto aussi. Hein. Il ne m'étonnerait pas que Monsanto fasse une promo fantastique cette année, voire offre ses graines à qui veut les planter.
Donc vous l'aurez compris, il y a urgence pour les apiculteurs puisque les semences arrivent en plein champ dès le début du printemps. Et le printemps, c'est bientôt. Le 6 janvier, Joël Blanc, accompagné d'une centaine de confrères apiculteurs et de faucheurs volontaires, ont occupé une centrale de la compagnie américaine Monsanto en Tarn-et-Garonne pour interpeller le ministère. Cela a marché puisqu'ils ont tous été reçus. Actuellement, ils attendent donc que se décide un moratoire et un arrêté d'interdiction de circulation des semences. La chance sourira peut-être elle enfin aux apiculteurs.
Apparemment, cette année, nouvelle clause de sauvegarde sera prise, et justement par rapport à l'apiculture. Parce qu'une nouvelle loi est passée entre-temps, lors de la loi sur la coexistence, belle blague, entre les OGM et les cultures conventionnelles et bio, je crois que c'était en 2008, ouais. L'amendement Chassaigne, je crois qu'il y a un député du Massif central, qui a été adopté et qui stipule que la culture des OGM doit se faire dans le respect des cultures conventionnelles et bio. Et là, dans le cas d'espèces, on voit que c'est pas possible, mais ça fait des années qu'on dit que la coexistence est impossible entre les OGM d'un côté, l'agriculture conventionnelle et bio de l'autre. C'est soit on a une agriculture sans OGM, soit on a une agriculture à terme qui sera toute OGM. Voilà. Mais les problèmes pour l'apiculture sont plus vastes que ça. Oui. Nous, on demande à court terme un moratoire sur le Monsanto 810. On demande également qu'au niveau de l'Europe, qu'aucune culture pollinifère dorénavant et nectarifère ne soit agréée en OGM. Et on a des soucis aussi pour la santé des abeilles. Hein. Le maïs Monsanto 810 sécrète un insecticide, le BT, et aucune recherche n'a jamais été faite sur la toxicité du BT à forte dose dans les ruches.
Ajoutez à cela le nombre incalculable de difficultés que rencontrent déjà les apiculteurs. Ce métier pourtant si beau devient de plus en plus difficile. Il y a le varroa, un acarien qui affaiblit les ruches, le changement climatique, mais aussi et surtout les pesticides qui ont un impact de façon permanente sur la santé des abeilles. Et c'est bien sûr le cruiser, autre combat qu'il mène. C'est une pure catastrophe sur les colonies. L'apiculture est au milieu donc de bien des combats, mais chaque chose en son temps.
En ce moment, on se bagarre pour que le gouvernement prenne un arrêté de non-circulation des semences. Voilà. Ça, c'est la première des choses. En attendant, la clause de sauvegarde, le moratoire, voilà, qui sera fondée sur l'apiculture. Ça, c'est une chose. Si on est roulé dans la farine, si on est enfumé et que l'arrêté n'est pas pris, si la clause de sauvegarde est prise tardivement et que les agri-managers de la GPM sèment, ben après, c'est un autre combat. Après, ce sera du fauchage. Tout ça, ça nous dépasse. Nous, on est sur le terrain, on est apiculteurs. On nous fait des promesses, mais nous on veut des actes, comme tout citoyen, quoi. Les apiculteurs, enfin, ce n'est pas pour certains apiculteurs, le problème a surgi là de manière violente, mais pour beaucoup d'autres, on sait que nous, les apiculteurs, l'apiculture est en première ligne, parce que nos abeilles participent à la pollinisation, donc du même coup participent à la dissémination des OGM, et que on a bien vu quand Mélara, dans le Lot-et-Garonne, avait mis 100 hectares pendant 2 ou 3 ans, 100 hectares de maïs OGM. Des ruches avaient été mises à 700, 1,4 km, 1,5 km. Et on avait vu qu'à 1,4 km, 50% du pollen récolté était du pollen de maïs OGM. Donc c'est vrai que les apiculteurs, nous, on est en première ligne. On est en première ligne. En plus, on ne sait rien du tout, rien n'est fait sur... aucune étude n'est menée sur l'action... du BT, sécrété par le Monsanto 810, sur la colonie d'abeilles. Parce que bon, le pollen rentre pollué, les nourrices servent de ce pollen pour nourrir les larves, ça fait des abeilles d'hiver qui sont très très importantes, évidemment. C'est elles qui assurent le passage hivernal et la relance de la ponte, et ça, aucune étude n'est menée.
Donc aucune étude n'est encore menée, et pourtant plus de 80% de la population est opposée aux OGM. Des faucheurs, des apiculteurs sont mobilisés. Peut-être cela portera-t-il enfin ses fruits. En attendant, si la question vous travaille et que vous vous sentez concerné, vous pouvez vous rendre sur Internet où une pétition circule sur des tas de sites.
On poursuit notre chemise à rayures avec une alerte, alerte sur l'école. Quelques chiffres communiqués par Attac. 227 postes en moins sur l'Académie de Toulouse, 25 postes en moins sur le département de l'Aveyron. Près de chez nous, les écoles de Sainte-Afrique, Vabre-l'Abbaye, Rébourguil, Saint-Cernin, Camarès, Le Truel, Saint-Victor et Melvieux, Verzoil-la-Peyre et Saint-Félix ainsi que Fondamente voient leurs postes menacés pour la rentrée 2012. D'autres écoles sont en attente de décision. La mobilisation s'organise donc. Un premier rassemblement est prévu ce soir à 18h devant l'école Blanchard à Sainte-Afrique. Un prélude au mouvement de grève des enseignants demain. Une manifestation est d'ores et déjà prévue à 14h demain, place d'Armes à Rodez. Vendredi prochain, le groupe d'information sur les droits et les libertés tient une nouvelle permanence au lieu-dit. Un avocat répondra à toutes vos questions sur le terme des libertés dans la rue. Quelques explications supplémentaires avec Henri Cellier, membre du collectif.
Cette permanence est bimensuelle. En fait, on a une réunion tous les mois et tous les deux mois, on élabore un thème sur lequel on apporte des informations. Le précédent, c'est sur la question du logement. Celui-là, ça va être effectivement sur les libertés dans la rue. Autour de l'idée que c'est quelque chose d'assez important. En fait, il y a deux choses importantes aujourd'hui. C'est quelque part, pour un humain, c'est sa santé et puis la vie collective. On va retrouver là un peu tous les trucs. On fait société. Et le lieu où on fait société, c'est l'espace commun. Parce que le reste, on va avoir des lieux un peu privatifs, les maisons personnelles, les entreprises et tout. Et puis le lieu où on est tous ensemble et où il faut qu'on se gère en société, c'est la rue, on va dire, quoi, globalement. Donc l'idée, c'est dans cet espace-là, où on voit bien qu'il y a une volonté des pouvoirs en place, quoi, de contrôler, de limiter une série de possibilités d'expression. Mais c'est un lieu où la liberté est essentielle, parce que c'est le lieu qui fait le plus société, quelque part. Donc l'idée de cette soirée, donc du thème qu'on va travailler là, c'est justement de se poser toutes les questions de ces libertés dans cet espace public. Est-ce que quand on est artiste de rue, c'est quoi la liberté qu'on a ? Quand on est un peu en galère et qu'on veut faire la manche, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on veut informer parce qu'on a un problème, distribuer un tract, s'exprimer, manifester, simplement discuter en groupe. Aujourd'hui, quelles sont nos libertés ? Quelles sont les limites des pouvoirs de police sur ce genre de contrôle, quoi ? Donc voilà un peu la soirée qu'on a prévue, avec l'idée de partir de quelques exposés comme ça, mais d'avoir un avocat qui réponde aux questions, de manière à effectivement pouvoir répondre à des besoins précis de tous les citoyens qui, un jour ou l'autre, ou ont été en butte à des problèmes, ou se disent « mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Jusqu'où je peux ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un chien ? Ou est-ce que je peux ? Jusqu'où les chiens des autres m'emmerdent ?» Enfin, les problèmes sont... C'est un espace commun, donc, avec tout ce qu'il peut y avoir comme tension à ce sujet, quoi.
Rendez-vous donc vendredi prochain, le 27 janvier, à partir de 18h au lieu-dit. Mais si vous avez d'ores et déjà des questions en tête, vous pouvez laisser un message sur le répondeur de la radio, de Radio Saint-Af, entre 18h et 8h du matin, comme ça on ne sera pas là. Nous transmettrons vos questions à l'avocat qui interviendra lors de cette soirée et les réponses seront rediffusées dans nos prochaines émissions. Et un troisième CD de la semaine, Lakey, Shooting Babylon. Ressemblait le monde ouvrier saint-africain au 19e siècle. Pour nous en donner un aperçu, Florian Boulet a ouvert les cartons des archives officielles de la mairie de Sainte-Afrique. Bienvenue dans 3A246.
Chronique de la maison de la mémoire.
Donc aujourd'hui, on va parler du registre d'inscription des livrets ouvriers, parce qu'on a découvert ça en farfouillant dans les archives. En fait, c'était le registre sur lequel étaient mentionnés tous les livrets qui étaient délivrés par la mairie. Alors déjà, il faut peut-être expliquer ce qu'étaient les livrets. Donc en fait, c'était un document, un livret, que tous les ouvriers devaient avoir en leur possession pour pouvoir travailler. Et donc, ils étaient délivrés par la mairie qui tenait un registre en disant « telle personne a eu tel livret à tel moment ». Donc comme il y en a quand même un certain nombre, on a pris juste une période de 5 ans, entre 1855 et 1860, et ça représente 400 personnes. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, selon les activités des gens, ça donne une petite vision du monde ouvrier puis du monde industriel à ce moment-là. Donc on voit les activités apparaître. Alors forcément, il y a énormément de petits artisans, des cordonniers, des menuisiers, des maçons, etc. Mais on est assez surpris par la proportion d'ouvriers de la fabrication du textile, qui représente quand même 46%, ça fait quasiment 200 personnes. Et du coup, qui font vraiment transparaître l'importance du textile, que le textile pouvait avoir pour la ville et même pour toute la région, vraiment à ce moment-là, qu'on a totalement oublié et qu'on ne soupçonnerait même pas, quoi. Et on voit toutes les étapes de la fabrication qui apparaissent, depuis les fileurs ou les fileuses de laine jusqu'aux tisserands, et après tous les gens qui s'occupaient des apprêts et des finitions. Parce qu'il y avait une quantité d'étapes qui se succédaient, depuis les gens qui triaient la laine, qui la nettoyaient, ceux qui la filaient, ceux qui préparaient ce qu'on appelle la trame et la chaîne pour tisser finalement. Et puis ensuite, ceux qui, une fois le tissu élaboré, se chargeaient soit de découper ce qui dépassait, soit d'arranger là où il y avait eu des petits soucis. Par contre, on est donc autant le textile apparaît fortement, autant l'industrie du cuir... elle apparaît quasiment pas encore, c'est à peine 9% des gens, alors qu'elle va vite prendre beaucoup plus d'ampleur, notamment grâce à Millau, quoi. On va avoir plein de mégissiers, de tanneurs, etc. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le textile qui domine tout, toute l'activité apparemment, et qui emploie énormément de personnes. Ensuite, les registres, c'est une source, on va dire, plus sociologique, assez intéressante, parce qu'ils mentionnent à chaque fois, évidemment, il n'y avait pas de photos. Donc, pour reconnaître les gens et s'assurer que le livret qu'ils avaient en possession était bien le leur, il fallait les décrire. Ce qui fait qu'on les décrit, je sais pas, la forme de leur nez, leur taille, la couleur des cheveux, est-ce qu'ils ont une barbe ou pas, de quelle couleur, etc. Et du coup, d'ailleurs, on est assez surpris, on entend régulièrement des statistiques qui disent que la population grandit. Et là, c'est assez surprenant de voir que la moyenne des gens, ils faisaient 1m65. Ça nous a assez surpris, quoi. Ensuite, c'est intéressant, on va dire, sociologiquement, parce que ça donne aussi le niveau d'instruction générale. Et on pouvait s'en douter, pour les années 50, il n'est pas encore très élevé. Et il y a 40% des ouvriers qui étaient alors illettrés. Et donc, par illettré, ça veut dire vraiment des gens qui ne savaient pas écrire, quoi. Qui ne savaient pas signer, notamment, parce qu'il fallait qu'ils signent le registre. Donc, on voit que certains signent, ils ont du mal, mais ils y arrivent, et d'autres qui n'essayent pas ou qui ne savent pas, quoi. Parce qu'à ce moment-là, donc, il y a eu quelques tentatives, notamment en 1848, avec les journées révolutionnaires et la proclamation de la République, où on a voulu instaurer des cours d'adultes, justement pour pallier ce problème, mais ça a pas encore porté ses fruits, quoi. Ça viendra que plus tardivement. Ensuite, c'est ce registre d'inscription, donc, qui mentionne tous les ouvriers. Il est assez intéressant aussi parce que c'est une des rares ressources où on voit vraiment apparaître la place des femmes. Jusque-là, on sait qu'elles travaillent, mais on en trouve rarement vraiment des sources qui le mentionnent. À part les patronnes, quoi, les femmes qui dirigeaient vraiment des entreprises qu'on voit apparaître assez facilement. Mais les ouvrières, etc., c'est assez rare. Et là, on en trouve pas mal. Ça représente à peu près un peu plus de 15% des ouvriers à cette époque-là. Et ce qui est surprenant, c'est les activités dans lesquelles elles travaillent, qui vont vraiment à l'encontre de certaines idées qu'on aurait pu avoir, parce que 90% travaillaient dans le textile, étaient ouvrières vraiment du textile. On aurait pu s'attendre à ce que la plupart soient domestiques. Et en fait, c'est que ça représente à peine 10%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et pour ce qui est du textile, c'est, on les voit vraiment travailler à un petit peu tous les niveaux, quoi. C'est pas seulement l'image d'Épinal qu'on a à partir des cartes postales anciennes où on voit toujours la fileuse de laine. C'est sûr qu'il y en a beaucoup de fileuses, mais on les retrouve aussi dans les usines à des activités très spécialisées. Malgré tout, il ne faut pas non plus tirer du registre non plus une vision, se dire quoi que tout est vrai. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses cachées, notamment le travail des enfants. Parce que les lois viennent d'être promulguées, donc ça serait assez bête que les gens aillent déclarer des enfants et se fassent pincer. Parce qu'on le sait très bien, parce qu'il y a des enquêtes qui sont à peu près de la même période, où on voit vraiment un grand nombre d'enfants. Enfin, quand on dit enfants, c'est donc moins de 21 ans. Mais des jeunes dans les livrets, on en trouve à peu près pas, quoi. Enfin, des jeunes, des moins de 16 ans. Alors qu'on sait très bien qu'il y en avait, beaucoup, quoi. Malgré tout, ça reste une source intéressante pour l'histoire, notamment sociale. Et puis, ça peut être aussi intéressant pour les gens qui font de la généalogie, parce que ça donne des détails qu'on ne trouve pas autrement.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Et il est déjà l'heure de se quitter. Alors merci rapide à mes coéquipières, Chloé à la technique, Elsa Decourt aux commandes de la chemise à rayures, Elsa Gourmand qui croule sous les journaux, un coucou à Manu et Philippe et à Gabriel qui ne s'est toujours pas échappé. Demain, on est jeudi et le jeudi, on laisse la place au tonton flingueur. On se retrouve donc vendredi à 10h10 et à 17h10 en rediffusion. On parlera de théâtre avec la compagnie Zampa et avec les Molotov. On ira également lorgner du côté de Miwan Jazz qui inaugure la saison avec un concert de blues samedi. Ne loupez pas à 19h l'émission A3, Ménage A3, émission Radio Larzac, Radio Temps, Radio Sainte-Afrique. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous.